toi est libre. Au FM 93, voici la voix.
Je pensais le trouver avec un brassard noir ce matin. Son équipe Tampa Bay All the Way est en train de se faire clencher en première série.
Incroyable, hein? Incroyable. On voit ça parfois au hockey. Faut dire que Columbus, à la date là, limite des échanges, a gagé tout. Ils ont tout gagé. Bobrovsky dit qu'il sera pas là l'année prochaine parce qu'il va être un agent libre. Ils ont dit on le garde pareil pour la saison. Même chose s'applique à deux ou trois autres de leurs joueurs. Vous avez en même temps été, ils ont été chercher Matt Duchesne, ils ont été chercher d'autres joueurs. Et puis soudainement, Tampa Bay, l'équipe de en fait, c'était une des équipes les plus puissantes qu'on a vues en saison régulière depuis les années 80.
Ah oui, toi, t'avais gagé sur Tampa Bay jusqu'à la Coupe Stanley?
Ah oui, oui, oui.
Mais puis, je veux dire, puis Jeff a pris Stamkos comme dans son pool?
En première ronde, Luc. C'est une catastrophe.
Monsieur, une catastrophe. Puis en plus, Kucherov qui pogne les nerfs, pas hier, mais avant-hier, l'autre jour d'avant, là, enfin, c'est vendredi, et qui se fait suspendre. Ça, c'est le premier compteur de la Ligue nationale. Il est pas là pour un match. Victor Hedman, de toute évidence, est blessé. Il est pas la moitié de ce qui est d'habitude. Et puis, écoute, c'est de ces choses qui se passent dans le sport professionnel. Je sais pas, j'imagine qu'ils vont en gagner une. J'ai de la misère à croire qu'ils vont se faire sortir 4-0. Mais là, c'est 3-0, puis c'est étonnant, puis c'est renversant. Mais ça nous annonce des séries de la Coupe cette année qui vont être assez étonnantes. Et surtout, Columbus qui sort en les battant, mettons 4-0 ou 4-1, ils vont arriver avec un momentum dans la deuxième série. Ça va être incroyable. Puis ils ont le personnel Columbus pour aller gagner une Coupe Stanley. C'est juste qu'on avait tous l'impression, comme on dit, que le jello prenait pas. Ouais. Mais là, on dirait qu'il a pris, puis il a pris juste au bon moment. C'est incroyable.
Le mystère du sport.
C'est ce qui fait la beauté du sport. Le mystère du sport.
Est-ce que je peux m'adresser au prof Lavoie pour m'expliquer qui est ce Julian Assange qui vient d'être expulsé d'une certaine manière de l'ambassade de l'Équateur où il était caché depuis quoi, 7 ans? Ça faisait 7 ans qu'il était caché là? Puis qui est maintenant entre les mains de la justice britannique qui sait pas trop si on va l'expédier vers la Suède ou bien vers les États-Unis. Puis c'est quoi cette histoire-là?
Écoute, c'est une histoire absolument incroyable, l'histoire de Julian Assange. C'est un gars, ça, qui, un Australien, qui a eu une enfance assez bizarre. Il a été dans 37 écoles différentes parce que sa mère a été mariée une couple de fois, puis a été aussi en contact avec des sectes, puis tout ce que tu veux. Mais lui, Julian Assange, c'est clair que c'est un gars extrêmement intelligent. C'est un informaticien. Et puis, c'est un gars qui a étudié quand même... tu sais, c'est un gars qui a un parcours académique assez impressionnant. Il a étudié en physique, il a étudié en mathématiques, en philosophie, en neurosciences. Et un de ses premiers emplois, ça a été de travailler pour le premier grand fournisseur d'accès Internet en Australie où il était le programmeur. Puis en 1997, c'est là qu'est la clé. Il a écrit un livre sur le piratage, sur le hacking, comment rentrer dans les serveurs des autres et tout ça. Et puis, à un moment donné, il s'est dit que là, son tour était venu. Il a développé une théorie selon laquelle les États disposent de trop d'informations sur tous les citoyens et surtout que l'État ne veut pas partager l'information dont il dispose. Alors, il a créé WikiLeaks. Leaks, ça veut dire fuite.
Ouais.
Alors, quand tu t'en allais sur WikiLeaks, tu savais jamais qu'est-ce que tu allais voir arriver. Entre autres, à peu près 10 millions de documents reliés à la présence américaine en Irak. Après ça, ça a été...
les abus de la prison de Guantanamo, c'est par là qu'on l'a appris, je pense.
C'est par là qu'on les a appris. Chelsea Manning, c'est le soldat américain devenu femme depuis. Chelsea Manning avait versé à WikiLeaks, c'est une banque de données. Et évidemment, ce que tu découvrais dans ce que Assange rendait public, moi, ça m'étonnait pas parce que j'ai travaillé au gouvernement fédéral, c'est que entre le discours officiel puis la réalité de la vie, il y a un énorme fossé. Et je m'explique. Quand t'entends à la fin d'une visite officielle le porte-parole ou le premier ministre ou le président dire « ce fut une excellente visite, nous avons des points d'entente évidents, nous regardons l'avenir avec espoir ». Après ça, tu vas voir le câble diplomatique, c'est-à-dire la dépêche cryptée, encodée, préparé par le diplomate de l'ambassade des États-Unis qui s'adresse au département d'État à Washington. Puis là, ça dit, le gars est pire qu'on pensait. Puis en plus, on le soupçonne d'avoir fait ci puis ça. Puis quand il a dit telle chose au président, c'est un mensonge, on veut que vous le sachiez. Patati patata, je te donne juste un exemple. Mais il y en a là comme ça, là, plein. Puis à un moment donné, le monde entier s'est mis à craindre Julian Assange puis Wikileaks. Il savait plus quoi faire avec. Tout le monde voulait l'arrêter pour quelque chose, puis il savait pas quoi. Puis Julian Assange a dit, ben moi, je vais aller m'établir en Suède. C'était une espèce d'apatride, lui, il vivait un peu partout. Je vais m'établir en Suède parce que la protection des sources journalistiques là-bas est essentiellement absolue. Il arrive en Suède, il commence à bâtir son affaire, et puis il y a une aventure avec une femme, consentante, on le sait. Ouais. Et au bout d'une semaine, ben il quitte la Suède pour aller rapatrier ses bébelles. Puis la femme est très fâchée, très frustrée, on ne sait pas trop pourquoi. Puis elle porte plainte contre lui pour agression sexuelle ou je ne sais trop quoi.
Ouais, c'est ça.
Et là, la Suède devient le fer de lance de la chasse à Julian Assange. On va l'attraper, c'était devenu, Myriam, l'homme le plus recherché de la planète. Parce que toutes les chancelleries du monde entier avaient une peur bleue, étaient rendues qu'il ne voulait plus écrire de câble diplomatique. Parce que ce gars-là puis sa gang avaient développé des façons de pirater les ordinateurs puis les serveurs tels que tu savais plus, tu n'osais même plus écrire.
Est-ce qu'il faisait du piratage maintenant lui-même actif ou ben donc il bénéficiait de gens qui lui shootaient de l'information?
C'est un mélange des deux. Au départ, c'était actif.
OK.
Puis à un moment donné, c'est là que l'étoile de Julian Assange a pas allé. Moi, je dois te dire que au départ, le phénomène Julian Assange et ce qui en émergeait, c'est-à-dire ce qu'on apprenait comme information, les paradis fiscaux, toutes ces choses-là, je me disais, ce gars-là fait œuvre utile. Il fait non seulement œuvre utile, c'est peut-être un des journalistes les plus importants de notre temps pour avoir sorti autant de matériel. Puis là, soudainement, quand tout le monde s'est mis à courir après lui puis que la Suède a émis un mandat d'arrestation pour des accusations de harcèlement ou d'agression sexuelle, et que les Britanniques, qui se trouvaient en sol britannique, ont décidé qu'il allait, en vertu du traité qu'il y avait avec la Suède, l'arrêter puis le remettre entre les mains. Lui, il s'est précipité à l'ambassade d'Équateur. Pourquoi l'Équateur? L'Équateur est un pays que je connais très bien, j'y ai passé quasiment 6 mois. C'est un pays, magnifique sur le plan géographique.
Ben là, ils ont la même température à l'année, eux autres.
Oui, il fait beau tout le temps. Puis la nature est belle, c'est extraordinaire. Mais sur le plan de la gouvernance politique, c'est l'exemple même d'une république de bananes. Okay? Okay. Vraiment, puis j'exagère pas, là. Je pense même que le mot république de bananes, un des pays qui a inspiré ça, c'est l'Équateur. Alors l'Équateur, ils se sont toujours voulus comme étant de gauche et même marxistes. Puis, je me souviens quand j'étais là, je tombais en bas de ma chaise, le monde, les gens là, portaient des noms comme Fidel ou Mao. Les gens baptisaient leurs enfants comme ça, Fidel, Mao, Che. Ça faisait partie du folklore. Alors, l'Équateur, qui a toujours maintenu des relations très difficiles avec les États-Unis, mais qui n'avait pas trop les moyens de ses ambitions ni de ses crises, à un moment donné, ils ont dit, bon, on va faire... chier, je l'ai dit vite fait, là, les Américains, on va le prendre dans notre ambassade. Alors, à partir de 2012, Assange, il était réfugié à l'ambassade d'Équateur à Londres. Et comme tu sais, une ambassade, ou pour les gens qui le savent pas, c'est ce qu'on appelle de l'extraterritorialité, c'est-à-dire que l'ambassade de l'Équateur à Londres, comme celle qui est à Ottawa, est considérée comme un territoire équatorien. La police britannique peut pas mettre les pieds là. Il y a comme une ligne de démarcation, tu peux pas traverser cette ligne-là.
Alors, c'est comme si t'agressais un pays étranger si tu rentres là.
Voilà, exactement. C'est contre les fameux accords de Vienne sur la diplomatie. Alors, ils ont fait, la police britannique, le pied de grue devant l'ambassade d'Équateur à Londres pendant 7 ans. Et Assange, à partir de l'intérieur de l'ambassade, où au fond, ils l'ont pas gâté beaucoup, là. Il était dans une pièce sombre, il n'y avait pas de lumière du jour, mais il continuait à faire son travail, ou ses bébelles. Et là où c'est devenu particulièrement disons, moins glorieux, c'est que Julian Assange, à un moment donné, il est devenu évident qu'il était devenu lui-même le véhicule utilisé par les Russes pour nuire à la campagne d'Hillary Clinton.
Ah, ouais?
Lui-même, Assange a dit... Ben oui, Assange a dit, moi, Hillary Clinton, je considère que c'est une hypocrite qui va amener le pays dans toutes sortes de guerres puis qui va déclencher des guerres partout dans le monde. Et là, c'était comme le premier... La première cloche qu'on entendait, et là, tout à coup, les fameux courriels de Hillary Clinton, puis à l'intérieur du Comité national démocrate, ça s'est mis à sortir sur Wikileaks. Et il est devenu de plus en plus évident, est-ce qu'on en aura un jour la preuve, que les Russes utilisaient Wikileaks comme véhicule. Donc, ils envoyaient leur matériel qu'ils avaient hacké avec leur opération ultra sophistiquée, ils l'envoyaient à Assange, qu'ils diffusaient par Wikileaks. Puis Assange, il avait vraiment de l'air d'être de connivence avec les Russes. Alors donc, son étoile a commencé à pâlir. Comment se fait-il qu'il ait de connivence avec les Russes et pourquoi? On se retrouve la semaine dernière pour toutes sortes de raisons qui tiennent à la capacité, essentiellement à la capacité des Américains de tordre les bras des républiques de bananes. Les Américains t'ont mis une pression, pression diplomatique, économique et tout ce que tu veux sur l'Équateur. Et l'Équateur qui avait donné la citoyenneté équatorienne à Julian Assange l'année dernière a annoncé coup sur coup qu'il retirait sa nationalité qui lui avait été donnée et qu'il retirait aussi son statut de réfugié et qu'eux autres même allaient le prendre puis allaient le faire traverser la fameuse ligne où c'est le territoire équatorien puis que les autorités britanniques pourraient faire ce qu'elles veulent.
Ils ont donc rajouté d'ailleurs en disant qu'il faisait du skateboard dans les corridors, qui était devenu infernal, qui jouait avec ses excréments sur les murs. Puis,
En fait, quand on l'a vu sortir... les images, il n'y en avait pas beaucoup, là, mais les images qu'on a vues, on est tous un peu tombés en bas de notre chaise. Il y a 47 ans, il a de l'air d'en avoir 75.
Il a l'air d'un ermite.
Le gars qu'on avait vu la dernière fois publiquement, ça remontait à il y a à peu près 4 ans, 5 ans, quand il laissait sortir sur le balcon de l'ambassade. Là, on a vu un gars chauve, longue barbe blanche, très, très vieilli, arrêté par les Britanniques. Puis là, les Britanniques, comme tu l'as dit tantôt... savent plus exactement ce que je fais avec. Je l'envoie-tu aux Suédois? Qui... ou bien si je l'envoie aux Américains?
Parce que les Suédois veulent le juger pour l'agression sexuelle. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça, c'est un prétexte, que l'agression sexuelle est un prétexte et qu'il va être rapidement
acquitté. C'est clair que c'est un prétexte. C'est clair que c'est un prétexte, puis que la Suède, qui se veut un pays neutre, est quand même un pays qui appartient au clan des Occidentaux, et que la Suède a donné un bon petit coup de main à ses amis américains en l'arrêtant ou en émettant un mandat d'arrestation contre lui, parce que ce que les Américains voulaient, c'était le prendre, le coffrer, pour qu'il arrête. Tu comprends? Mais ils n'ont pas été capables de le prendre puis de le coffrer. Pendant 7 ans de temps, il était là, et puis la minute qu'il sortait son gros orteil de la fameuse ligne de démarcation de l'ambassade, bang! Il était arrêté. Ça a duré 7 ans. Là, il a été arrêté. C'est quoi... Tu sais, il est un peu compromis, ce gars-là. C'est à la différence de Edward Snowden, qui a l'air d'une sorte de grand rêveur qui veut la paix mondiale. Ça, Assange a l'air de quelqu'un qui a participé à une espèce de complot avec l'ennemi, en quelque sorte. Alors, c'est un personnage qui va certainement finir dans un film. C'est un gars, je le répète, un gars extrêmement intelligent, mais bizarre. Ses motivations demeurent étranges. C'est un gars qui pense... que l'État est quelque chose de très mauvais, qu'il faut s'en méfier 100% du temps et qu'il faut qu'il y ait des gardiens comme lui l'était pour forcer l'État à nous dire la vérité qu'elle refuse de nous dire. C'est ça sa motivation d'origine. Pourquoi il est tombé dans le jeu des Russes, je ne sais pas.
Mais là, les Britanniques n'ont rien à lui reprocher personnellement. Là. C'est soit la Suède...
Bris de probation.
Soit les États-Unis.
Soit les États-Unis.
Pardon? Il y a bris de probation au Royaume-Uni. Je pense qu'il fait face à 12 mois de prison.
Il y a bris de probation. Oui, c'est vrai qu'il y a un bris de probation au Royaume-Uni. Ils peuvent l'arrêter pour ça, mais tout le monde est pris avec. Disons que les Britanniques le gardent, puis qu'ils le poursuivent pour, je sais pas, bris de probation, tout ce que tu voudras. Là, ça va finir où? À un moment donné, il va sortir de prison, puis il va recommencer à circuler librement. C'est ça que les Américains veulent pas. Il y a même un représentant de la Chambre des représentants aux États-Unis, je parle de vers 2010-2011, au début de Wikileaks, qui avait dit ouvertement, c'est le genre de gars que nos services de renseignement devraient abattre. Parce qu'il est extrêmement dangereux à la sécurité nationale. Évidemment, depuis ce temps-là, on ne l'a plus entendu, ce représentant-là, mais ça ressemble un peu à un livre de John le Carré, avec cette espèce de personnage qui est né avec la vague cybernétique.
Ouais.
Et puis là, il va aboutir où, je ne le sais pas. Mais grâce à lui, je dois dire qu'on a appris pas mal d'affaires qu'on ne savait pas avant, qu'on soupçonnait.
Donc la question, c'est comment il va mourir?
Comment il va mourir, puis comment... Et oui, parce que au fond, les États-Unis, je suis pas sûr qu'ils veulent tant que ça l'avoir sur leur territoire. Parce que s'ils font un procès, Assange, en passant, son avocate à l'heure actuelle, c'est Amal Clooney, la femme de George Clooney, l'avocate
ouais?
d'origine libanaise. Oui, oui. Une de ses avocates. Alors, s'il se retrouvait en procès aux États-Unis, il y aurait une défense. Pas à peu près. Et là, alors les Américains, au fond, ils veulent pas.
Mais j'ai lu
les Suédois, ils en veulent plus.
J'ai lu un tweet en fin de semaine qui disait que Assange s'était certainement gardé des armes pour faire chanter ceux qui voudraient l'arrêter.
Je pense ça, moi aussi. Mais maintenant, quelle est sa liberté d'action? Où est-ce qu'il y a l'ordinateur auquel il y aura accès pour faire ce qu'il veut faire? C'est un informaticien de grand talent, mais si on y coupe l'accès à des ordinateurs, tu sais, c'est quasiment de la science-fiction. Qu'est-ce qu'on fait avec un gars comme ça? Sécurité nationale, là, au nom de la sécurité nationale, presque tout est permis dans le monde. Alors, ils font quoi avec lui?
Dans le fond, personne ne veut le juger, puis personne ne voudrait qu'il continue à exister.
C'est ça. Il aimerait ça qu'il s'évapore. Il aimerait qu'il s'évapore. Mais il s'évapore pas. Et moi, je trouve... Moi, personnellement, il y a longtemps que je suis son histoire. C'est un gars fascinant, là. Pour le meilleur et pour le pire, je dis même pas que j'appuie ce qu'il fait. Je dis juste, waouh, quel personnage incroyable qui fait chanter les plus grandes chancelleries, les plus grandes puissances militaires du monde. Il cherche, puis il essaye de le pogner, puis il le pogne jamais. Ça n'a pas de bon sens. Là, ils viennent de le pogner, ils ne savent plus quoi faire avec.
Merci
il
beaucoup.
Il aimerait une poudre de la poudre de perlin pimpin. Pouf, il part en fumée.
Ah, comme faisait Michel, le magicien à bracadabra, pyjama, qu'est-ce que tu fais là? Pouf! Tu disparais ça. Salut, Luc!
Salut, bye!
Salut.
Il est midi 2.